A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Les 3 semaines ont été une succession de choses que je sentais que je devais faire. Et donc ça. Et j'ai oscillé entre deux personnes, entre ma femme et ma fille. Et j'essayais de faire ce que je pouvais et d'être dans l'instant présent. Et j'étais dans un état de... Je sais pas comment dire, c'était assez beau cet état de présence et de vigilance et de précision. Parce que j'étais pas dans le... J'étais dans un calme précis.
Exécuté par qui ?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce de celui-ci pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail.
C'est la première fois que tu vas parler de ton histoire ?
Oui. Oui, c'est la première fois parce que justement l'émission que j'avais fait sur Prune à Nantes, j'ai juste effleuré le truc. Mais genre,
ok. Fameuse radio locale de Nantes.
Ouais, fameuse.
Je connais bien parce que j'ai une de mes anciennes salariées chez Mademoiselle qui avait fait toutes ses, genre son plein de missions chez Prune et qu'elle adorait Prune. Donc j'ai déjà entendu parler de Prune même si je suis pas nantais, tu vois.
Ah ouais, bah super.
Ça m'a fait rire d'entendre que t'es déjà passé sur Prune, je me suis dit, ah yes. Ouais.
Grâce à Baptiste.
Grâce à Baptiste. Tu me disais que t'étais déjà en train de réfléchir hier et que tu... Enfin, tu as commencé ta phrase sans la terminer. Je t'ai dit, vas-y, viens, on va enregistrer, sinon ça va être chiant. où est-ce que tu voulais aller?
Que je disais que je venais là et que je commençais, mine de rien, à cogiter. Ouais. Et qu'il y a des trucs... C'est ça, en fait. Il y a des trucs... mais ça, je peux pas en parler.
Faut que tu mettes bien le micro.
Ah, oui, ok. Voilà. Le coller. Ouais, d'accord. Ok, je vois la différence.
Tu étais déjà en train de cogiter, c'est ça?
Oui. Mais du coup, je peux pas te dire précisément quoi. Je sais pas que je peux pas te dire, c'est que je me souviens pas exactement. Mais typiquement, lorsqu'on est amené à parler d'une histoire aussi intime, on se pose la question. Et c'est des questions que je me suis posées encore en amont. Me dire, mais attends, est-ce que je vais parler de ça? Pourquoi? Dans quel but? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que je dois m'exposer à ce point-là? Et voilà.
Okay.
Vu que c'est très intime, et c'est une histoire très particulière qui change toute ma vie aussi. Donc c'est pas rien.
Mais tu sais, l'un des trucs que j'ai découvert avec ce podcast et en faisant vraiment plein d'interviews en dehors d'Histoire de Daron même, c'est que on a souvent l'impression que nos histoires intimes nous appartiennent totalement, si tu veux, et en fait elles sont beaucoup plus universelles qu'on croit, quoi.
Très intéressant. Bah, c'est un peu pour ça que je suis là.
Ouais.
C'est parce qu'en fait je me suis dit, mais attends, parce que en fait dans ta situation, si t'avais vécu ça en ayant entendu l'histoire de quelqu'un d'autre, parce que finalement quand tout ça m'est arrivé, je me suis dit, mais c'est fou, mais en fait ce que j'aurais aimé, c'est rencontrer un mec, enfin un papa, à qui il arrivait une histoire plus ou moins similaire. Et c'est vrai que je me sentais un peu, j'avais l'impression que c'est le premier de l'humanité à vivre un truc pareil. Et en fait, et c'est pour ça que je suis là, je me dis, mais c'est en plus un témoignage plutôt qu'un, tu vois, c'est pas... j'ai envie de dire, c'est presque pas thérapeutique, c'est plus, tu vois, le fait de parler des choses, etc. Parce que ça me concerne et c'est intime. Mais c'est plus un témoignage qui, je l'espère, pourrait éventuellement servir à quelqu'un. En fait, je le vois comme ça.
Bah, c'est trop top parce que vraiment, il y a plein de pères qui viennent un peu dans cette idée-là, tu vois, qui ont tous vécu des choses où ils se sont dit, comme tu dis un peu, ah mon Dieu, je suis seul au monde et, ouais. Et en fait, je suis la première personne à vivre ce truc et où est-ce que je peux trouver d'autres histoires, etc. Et en fait, c'est un peu aussi pour ça que j'ai lancé ce podcast, c'est que ça permet de pouvoir, tu vois, on a le temps, on a le temps de raconter, on a le temps de prendre le temps justement. Mmh. Et c'est trop rare en fait. Donc merci c'est beaucoup sûr. De venir, hein. c'est très précieux.
Ah bah ouais, bah merci d'être. Enfin, on est bien là. On est bien.
on est installé dans mon canapé. C'est mon QG, ce canapé. Bon, pour expliquer un petit peu, Amaury, tu m'as envoyé un mail pour me raconter qu'en fait, pour raconter assez rapidement, ta chérie a fait un AVC, c'est ça?
Je sais pas, la différence, c'est pas un AVC, c'est une rupture d'anévrisme, mais je sais pas si c'est un AVC ou pas. En tout cas, elle a fait une rupture d'anévrisme, oui.
Alors qu'elle était enceinte?
À 7 mois et demi de grossesse, mmh. Ouais, à la piscine. Et c'est un vaisseau qui explose dans le cerveau. Et qui, bah, vous t'imagines, c'est l'inondation, quoi.
Ouais.
Et oui, c'est ça. Et du coup, alors il y a tout un contexte et tout un timing en fait dans tout ça, mais en l'occurrence, oui, ce qui s'est passé, c'est vraiment ça, c'est une rupture d'anévrisme. Du coup, un coma assez instantané, enceinte de 7 mois et demi, donc un bébé à... Enfin, du coup, le SAMU, du coup, elle était à la piscine, donc moi, j'étais à la maison pas loin. Mais du coup, SAMU, enfin urgence, opération, et je sais pas, je me mets à la place du médecin ou du chirurgien. C'était sauvons le bébé aussi et voyons ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc à la fois le cerveau, le ventre, quoi. C'est assez presque symbolique en fait. Enfin, c'est le différent centre énergétique en fait. Et du coup, bon là, on parle d'Anne-Charlotte. Donc je sais pas comment ça s'est passé pour elle précisément, puisque j'ai pas pu en parler avec elle. Elle est tout de suite tombée dans le coma. Et ils l'ont plongée dans un coma plus profond encore pour pouvoir un peu stopper le corps, si tu veux.
Le stabiliser, quoi.
Ouais. Mais ça a duré longtemps, en fait. Et ce qui est très bizarre, c'est que... Bah, en fait, c'est dur de s'imaginer géographiquement, mais en tout cas, j'étais pas très loin, moi, en fait, quand okay. tout ça se passait. Et ça a pris beaucoup de temps, en fait. Je crois que vers midi, elle a fait ce malaise. Et ça a duré peut-être... Enfin, moi, je me suis retrouvé aux urgences dans un espace-temps, dans un autre monde, en fait.
Ouais.
Dans une salle d'attente sans fenêtre, peut-être une heure après ou peut-être une heure et demie après, en fait. Parce que il y a plein de trucs qui se passent et le temps, ouais, finalement, le temps n'a plus vraiment la même notion du temps. Et je pense que même ceux qui travaillent dans les SAMU ou dans les urgences ou des choses comme ça, ils doivent déconnecter complètement parce que on est dans une autre réalité presque dans l'instant et du coup on perd la notion du temps, c'est assez étonnant. Et même de l'espace. Mais je me souviens quand même que je me suis retrouvé au CHU de Nantes dans une salle sans fenêtre et c'est là où je me suis dit waouh, l'hôpital est dans un état peu étrange. Et c'était avant toute cette histoire, c'était novembre 2019. Donc ouais, expérience bizarre.
On va reparler de toute ton histoire et de ton histoire, comme tu dis, qui est unique et qui en même temps, je crois, arrive aussi à plein d'autres pères. Donc t'as quel âge aujourd'hui?
36 ans.
Okay.
Ça me surprend d'ailleurs de dire 36 ans, je trouve ça...
Pourquoi?
Bah, ça se rapproche des 40, je fais waouh, j'ai pas du tout l'impression d'avoir 36 ans.
Ça se passe bien, tu sais.
Ça va. Ouais.
Ça va. C'est tes enfants qui grandissent, en fait. C'est ça, moi, qui est terrible, c'est que tu vis à travers eux, quoi.
Oui. Pour moi, tu fais le comparatif.
Exactement. La question que je pose à tous mes invités, c'est comment t'en es venu à vouloir devenir papa?
Bah, comment j'en suis venu à vouloir devenir papa? En fait, c'est assez naturel, c'est pas le fait de devenir papa en soi, en fait. Pour moi, c'était le fait d'être bien avec une femme, de vouloir écrire quelque chose, et c'était une suite logique.
Ok. Voilà. T'as jamais eu ce truc, tu sais, j'ai parfois des darons qui me disent, moi, depuis que je suis tout petit, j'adore les enfants, machin. Toi, t'étais pas vraiment
non,
dans ce truc.
Non, pas du tout. Non, en fait, j'étais plus dans une cohérence de vie. Et je me dis, bah ouais, si tu rencontres la bonne personne, effectivement, de vivre en couple et ensuite de vouloir te projeter avec un enfant, pour moi, c'est une manière de grandir dans l'amour du couple. Et c'est, alors, je sais pas si je dis c'était, je sais pas si j'ai toujours le même avis, en tout cas à l'époque, c'était ça. C'était de se dire, ben. On s'est marié en fait aussi.
Ouais.
Et ça, c'était un peu un tout, voilà, de créer un foyer et puis d'avancer avec tout ça, avec tous ces paramètres.
Ok. C'était pas une envie fondamentale de ta part de dire ok, j'ai envie de devenir papa, j'ai envie de transmettre ou je sais pas quoi. C'était plutôt un truc de continuité, quoi, c'est ça?
Ben, c'était pas non plus un truc inconscient. C'est pas de dire ah oh, bah oui, bah c'est le moment auquel de devenir papa. C'était pas non
ça
plus
pourrait,
ça.
Hein.
Non, c'était pas ça.
Okay.
Non, c'était vraiment de dire ah ouais, là j'ai très envie d'avoir un enfant avec toi en fait.
Okay.
C'était vraiment ça. Et je me souviens même lui avoir dit à un moment donné. Et c'était une évidence, mais c'était un choix assumé et pas non plus et pas du tout subi ou de dire ah bah c'est le modèle classique, okay, etc.
Non, mais ça pourrait aussi, hein, tu vois.
Non, ouais, mais c'était pas le cas.
Bonne ou mauvaise réponse. Ok, très bien. Vous rencontrez quand avec Anne-Charlotte?
On se rencontre le 27 juillet 2017.
Okay.
Et en fait, ce qui est très bizarre, et on n'a pas du tout maîtrisé cette date, on s'est marié le 27 juillet 2019.
Ok.
Ouais, puis
on pas fait exprès et tout.
Bah en fait, on voulait se marier fin août et puis c'était pas possible, on avait un énorme lieu où les gens pouvaient dormir et tout. Et puis il nous a dit ah bah non, en fait ça pourrait être que ce week-end du 27 juillet quoi. Et on voulait se marier le samedi pour mettre plusieurs jours. Et puis en fait, c'est Anne-Charlotte 6 mois après, elle dit mais attends, c'est hyper bizarre, on s'est rencontré le 27 juillet 2017. Donc c'était marrant. Et on s'est rencontrés, elle a visité mes locaux professionnels que j'avais à l'époque à Lyon. Et elle cherchait un bureau. Et donc on cherchait quelqu'un en sous-location. Et on a commencé, donc je lui montre le bureau. Puis elle commence à me parler de ses voyages, on discute et tout. Je trouve ça assez fou tout ce qu'elle me racontait. Et je lui dis, bah, est-ce que ça te dit qu'on aille boire un verre pour que qu'on discute plus, quoi?
Le mec direct, bonsoir. Allons boire un verre.
Bah, j'ai hésité une seconde et okay, puis je me suis dit, bah, vas-y, attends. Et du coup, on est allé boire un verre dans un, en fait, on n'a pas trouvé de lieu où il y avait de la place. On est allé boire un verre dans un bar à vin, qui était peut-être presque un peu trop intimiste au final, parce qu'on se connaissait pas. Et ça s'appelait En attendant septembre. Et c'était fin juillet et on s'est revus, la deuxième fois où on s'est revus, c'était en septembre.
Ok.
On a vu ça aussi, c'était un an après, on s'est dit « Ah, c'est drôle quand même !» Donc il y a eu pas mal de petits trucs drôles avec ces dates. Voilà.
Ok, et en fait quand vous vous mariez, si je ne me trompe pas, Anne-Charlotte est déjà enceinte, c'est ça?
Oui.
Vous vous mariez dans le péché, bravo, hein,
c'est
ça.
Bah en fait, c'est vrai, et en fait pour Anne-Charlotte, c'était pour nous deux, parce qu'on n'avait pas prévu ça. On voulait vraiment. Alors, c'est pas si histoire de péché, etc. Mais pour Anne-Charlotte, un peu plus quand même. Elle voulait vraiment se marier.
Il y avait un côté de faire les choses dans l'ordre, peut-être ou...
Oui, okay. un côté comme ça. Et puis.
Je tiens à dire aux gens qu'il n'y a pas d'ordre indéfini, parce que tu sais, c'est.
C'est vrai que... Oui, non, on fait ce qu'on veut. Bah,
on fait ce qu'on veut. En fait, je crois que c'était pas forcément vrai il y a encore quelques décennies, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plein de façons de vivre, quoi.
Bah, d'ailleurs, c'est ce que nous a dit quelqu'un, je me souviens, il nous disait, mais en fait, peu importe dans l'ordre dans lequel on fait les choses, le plus important, c'est l'intention de départ, en fait, pourquoi on les fait. Mmh. Et Anne-Charlotte était quand même pratiquante catholique, donc même si elle n'était pas... elle était très ouverte et moi je me suis ouvert à une nouvelle réalité au départ qui me faisait un peu peur au début.
Parce que t'étais pas vraiment dans la religion?
Non.
Ok.
Même si j'ai été baptisé quand j'étais enfant et tout, ouais, ça, mais du coup je me suis dit waouh, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et au final j'ai appris par son biais un regard sur la religion qui était un bel enseignement en fait. Spécifiquement parce que Anne-Charlotte avait vraiment une vision de la spiritualité, etc. Moi j'étais déjà dans cette vision de la spiritualité, mais pas spécialement
en rapport avec une religion particulière,
en rapport avec une religion, ouais, voilà. Et toujours, même si je me considère quand même comme chrétien aujourd'hui, mais pas spécialement catholique, religion, aller à l'église, faire le dogme religieux, etc. C'est plus une spiritualité pour le coup, une manière de vivre dans cette vie, d'incarner qui on est. Et pour revenir sur ce que tu disais, c'est que à l'époque, on avait quand même programmé un truc, c'est-à-dire qu'on voulait se marier, alors comme tu dis, faire les choses dans l'ordre, mais plus, j'ai envie de dire, en termes d'organisation. Parce qu'en fait, on voulait partir en Inde, au Ladakh, donc on a tous les deux un peu voyagé, Anne-Charlotte avait beaucoup voyagé, et on voulait partir après notre mariage au Ladakh, faire quelque chose d'une sorte d'expédition, et puis ensuite revenir en France et s'installer, puis peut-être que... lorsque notre enfant aurait eu 2 ans, on serait parti aussi peut-être en Afrique avec l'enfant, etc. On avait vraiment cette vision.
Projet quoi, c'est ça de, ouais, voilà, de voyager ensemble et en famille après, c'est ça quoi.
Ouais, c'est ça.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et juste après le mariage surtout, et en fait quand on a appris qu'elle était enceinte, bah en fait il était plus tellement question de partir en Inde, faire un trek, surtout qu'elle avait, elle avait 5 mois au mois d'août de grossesse, et donc tout était d'un seul coup remis en question, et puis je savais pas que tout allait être remis en question de A à Z par la suite. Oui. Mais finalement c'est une belle leçon de se dire ben ok, t'as envie de faire ça et ça, et ça. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça va se passer. Oh là là. C'est pas toi qui décides. Mais c'est quand
la
même.
Tu décides de tes plans pour toi plutôt souvent.
C'est fou. C'est fou. Bah ouais, du coup, faut pas trop faire fonctionner la machine à programmer trop loin, quoi.
Parce c'est que... une belle leçon. C'est surtout qu'en fait, tes enfants, quand ils sont là après, ils décident de faire ce qu'ils veulent aussi, quoi. Tu vois, t'as un peu ce truc-là qui est terrible. Comment se passe pour toi l'annonce de la grossesse?
Alors l'annonce, le fait que je suis enceinte.
Oui.
Je te dis le première réaction, c'était alors moi j'étais super content. Donc waouh, c'est le premier truc, c'est waouh, je vais être papa, on va avoir un enfant. Et le deuxième truc, c'était mais on va pas pouvoir faire ce qu'on avait prévu. Parce que si tu veux, parce que en fait c'était imprévu, c'était pas comme si on avait programmé, on s'était dit comme certains couples font, il faut on va faire un enfant, du coup on va voir ce qui arrive, et puis la nouvelle arrive et c'est cool et machin. Mais effectivement on n'avait pas de méthode technique de contraception, et moi je suis pas tellement pour parler de la pilule.
Ouais.
Je trouve que c'est vraiment pas top comme truc. Mmh. Et donc en fait on n'avait pas spécialement, et puis après il y a les méthodes de contraception masculine comme
le préservatif.
Oui, alors le préservatif.
Non mais pardon, je me permets de faire le
ouais. Non,
je
mais c'est sûr.
Un peu l'avocat du diable, mais si tu veux c'est mon rôle aussi en tant que
on est les premiers, bien sûr. On a été surpris et on a eu cette réaction de dire waouh, ah ouais, ah c'était cool, ah ouais mais mince. Mais en fait en même temps après tu te dis vite bah oui mais en fait on est responsable. Mmh. Bien sûr, et très vite on prend notre responsabilité. Mais tu vois les premiers moments, c'est que tu te dis ah ouais, on est surpris. Mais en même temps, si tu regardes a posteriori, comme t'as une réaction très juste, bah oui, mais en même temps, qu'est-ce que t'attendais, quoi? C'est sûr.
Si tu voulais aller en Inde, tu vois, il y avait une bonne façon de faire, c'était tu te mettais un bout de caoutchouc sur le zob et bouf, ça.
Ouais.
Bon, excuse-moi, c'est pas du tout le sujet, mais je crois que c'est important, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, de le dire aussi. Donc effectivement, t'as un peu ce double effet qui se coule de « ah, trop bien », et d'un autre côté « ah, zut », tu vois.
Oui.
Ce que je comprends grandement.
Et puis très vite, quand même, je tiens à le dire, très vite, on intègre l'information. Et du coup, on se dit, ok, comment on va vivre ça au mieux? Ok, super. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, très rapidement, on s'est mis... j'ai entendu un de tes podcasts qui parlait de l'aptonomie, un intervenant.
Ouais.
Et on s'est mis à explorer ça. Et puis voilà, puis très vite, on s'est mis à fond dans le truc. C'est juste une histoire de, tu vois, d'ajustement et de.
Bien sûr.
Et de reprogrammation, en fait.
Ouais. De reprogrammer le fameux plan, parce qu'en fait, voilà.
En fait, voilà.
Il faut pas faire de plan.
Non. En fait, globalement, c'est ça. C'est un peu moi aujourd'hui, dans l'instant présent, là, maintenant, je me dis, bah, en fait, non, c'est un peu la leçon. Ouais. C'est que si tu peux faire des plans sur ta journée, te dire, bon, bah, là, je vais prendre un train à telle heure, etc. Là, c'est sain. Mais si tu commences à aller trop loin, c'est juste pas possible. Quoi.
Ouais, c'est clair. Comment se passe la grossesse, en fait, pour toi ?
Pour moi ?
Ouais, pour toi, en tant que papa. Je te rappelle qu'on est dans l'histoire de Daron, donc
c'est vrai.
J'ai décidé de parler de toi.
Ben, c'est vrai, mais du coup, c'est peut-être ma réaction, c'est peut-être que ça se passe bien, mais pour Anne-Charlotte, c'est un peu compliqué les premiers mois, les trois premiers mois. A posteriori, je sais pas si c'est lié à tout ce qui s'est passé derrière, mais elle a eu pas mal de nausées, c'était difficile en fait au début, elle se sentait... ça l'empêchait de faire pas mal de trucs ouais. parce qu'elle était pas super bien tout le temps voilà et donc du coup moi au départ enfin bon si je parle de moi
comment tu vivais le fait qu'elle soit pas bien du tout
bah c'est ça tu vois c'est par son biais là ouais. C'est pas hyper hyper fun mais en même temps on le vivait bien moi j'étais trop content de découvrir ce processus là complètement magique on le vit au-delà du fait que les trois premiers mois c'était compliqué pour elle j'ai essayé de l'accompagner au mieux en fait j'ai essayé d'être présent mais le fait de devenir papa progressivement je le vivais super bien puis surtout les moments où on commence à voir le bébé qui bouge, etc. Enfin, c'était une belle... Ouais, c'était bien. C'était beau, en fait. Et j'avais pas du tout de peur ou d'appréhension.
Ok. Ouais. Bon, je tiens à dire après que c'est très classique que les trois mois soient vraiment une horreur pour les femmes et que...
Pas toutes, hein. Enfin, si
bah, ouais. Oui, c'est un peu là. J'ai un peu l'impression que c'est la loterie, en fait. Tu vois, en ouais. fonction de... Alors après, je suis pas médecin. Et que même pour une femme d'une grossesse à l'autre, ça peut vachement évoluer.
Ouais.
Et que ça vous entraînera pas forcément une rupture d'anévrisme, hein, tu vois, parce que je tiens à le dire parce que c'est pas forcément.
Ouais,
ça
bien sûr, bien sûr.
Rajouter de la flip sur un moment qui est pas forcément très.
Oui,
très
oui.
Simple.
C'est vrai, c'est vrai.
Et toi, tu disais que l'autonomie, ça t'avait aidé aussi à créer un lien, c'est ça, avec ton bébé.
Ouais. Ça aide à vivre cette expérience un peu plus charnellement parce que finalement c'est vrai que c'est la femme qui vit cette expérience j'ai presque envie de dire cette expérience physique et spirituelle parce que ça nous dépasse largement un corps qui se forme dans le corps de quelqu'un d'autre enfin, c'est très bizarre et donc du coup c'est plutôt la femme qui nous dit qui dit ouais je sens ça mais c'est dingue c'est quand même fou d'avoir quelqu'un en moi qui se forme etc. Et du coup nous on le vit pas physiquement. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir un décalage qui commence dès le début parce qu'après il y a tout le reste et puis le lien entre la maman et l'enfant et tout. Mais l'autonomie finalement va aider à impliquer le papa effectivement, à ressentir davantage avec ses mains, à comprendre les choses un peu plus et puis je trouve que ça a créé quelque chose dans le couple, une sorte d'aventure ensemble. Donc ouais, j'ai bien aimé.
Ok, tu recommandes ?
Je recommande à donf. Et tu sais que nous aussi, je pense à ça, parce que je pense à l'autonomie, mais je pense à d'autres trucs, c'est qu'on a fait une sorte de préparation au mariage un peu, qui était super.
Ok.
J'ai adoré.
Donc et un peu plus religieuse, c'est ça ?
Un peu plus, ouais, alors c'était avec un frère de Saint-Jean.
Okay.
Donc tout ça c'était plutôt motivé et généré par Anne-Charlotte.
Ok.
Comme je te l'ai dit, qui était catholique. Mais en fait, moi, j'ai adoré. Parce qu'on s'est retrouvés dans... Alors, j'ai un côté aussi un peu... j'aime bien tout ce qui est spirituel.
Okay.
Et on s'est retrouvés dans un monastère avec un moine un peu psychologue. Et puis, en fait, si tu veux, cette expérience de grossesse, elle était aussi liée à des questionnements spirituels... Enfin, on était. Enfin, comment dire ?
Quel genre de questionnement ?
Ouais, je suis en train de m'embarquer dans un truc.
Non, on a le temps.
Non, mais des questionnements sur qui on est, sur d'où on vient, pourquoi on se marie. Et puis d'un seul coup, on a appris dans ce processus-là que finalement on attendait un enfant.
Ah yes.
Tu vois. Et là, waouh, les choses prennent encore une autre dimension. Et si tu veux, moi j'étais quand même très impliqué aussi, quoi, parce que on était impliqué dans cette préparation au mariage, donc préparer notre future vie commune, parce qu'on, voilà, on le prenait quand même au sérieux. Et puis, Et puis bah ouais, l'enfant dans tout ça, et donc ouais, ça donne de la puissance à tout ça, quoi. Donc pour répondre à ta question, voilà, comment tu le vis en tant que papa, je crois, et que tu me demandais comment j'étais impliqué, voilà, j'étais assez là, et puis je le vivais comme une aventure. Et j'essayais de rester quand même à ma place, tu vois, d'être un soutien, mais c'est pas moi qui porte l'enfant non plus. Donc c'est aussi un juste milieu, quoi.
Ok.
Et à Nantes, on a fait une super rencontre. Comment ça s'appelle ? On a rencontré une sage-femme qui, ben, je crois que c'est ça justement, c'était aussi Autonomie. Je crois qu'en fait, on a déménagé aussi entre temps. Et attends, je suis un peu perdu, mais en gros, il y a une sage-femme qu'on a rencontrée à Nantes, du coup, quand on est arrivé à Nantes. Et on a fait quelques séances, du coup, je crois que c'était de l'autonomie aussi. Je confonds un peu les deux, mais. Et du coup, c'était des couples qui venaient, donc il y avait vraiment le papa et la future maman. Enfin, le futur papa et la future maman. Et on était, du coup, trois ou quatre binômes, je sais plus exactement. Et ce qui était super aussi, c'était on se sentait embarqué avec d'autres futurs papas, quoi. Et il y avait plusieurs couples et on pouvait comparer. Ah ouais, toi, t'as à tant de mois. Et ça, c'est génial. C'était des séances collectives d'autonomie, ouais.
Ça manque beaucoup, je trouve, de parce qu'autant les femmes discutent énormément, tu vois, de leur grossesse, etc. Il y a un vrai truc de, même, tu vois, de transmission. C'est pas forcément un truc qui existe entre mecs, quoi, tu vois, déjà, de discuter sur la même génération, de discuter avec les pères, etc., enfin, c'est pas forcément un truc qui se fait, quoi.
Ouais, c'est pour ça que t'as fait le podcast.
J'essaye, écoute, voilà. J'invite d'ailleurs les gens à venir. Tu sais, j'ai un Discord, en fait, où les gens peuvent venir discuter.
Ah ouais, super.
Et tu savais pas, bah voilà, je te le dis, tu vois.
Ouais, parce que je suis sur Discord depuis pas longtemps.
Il y a un channel où on discute de daronnerie et tout, et ça échange beaucoup. Ça vient parfois lâcher des... quand il y a besoin de lâcher la pression, parce que parfois il y a
cool.
De pression, et puis de venir discuter aussi. Et c'est trop intéressant d'avoir ce moyen d'échanger, tu vois, et de comparer les expériences, de discuter. Ouais. C'est pas forcément un truc qui se fait beaucoup entre mecs. Mmh. Et c'est vrai que ce podcast-là, il existe, mais on est que tous les deux, quoi, tu vois. Ça serait trop bien qu'il y ait.
Faire un cercle
d'hommes. Dans ma vie, ça serait, voilà. T'avec d'autres gars, tu vois, et qu'on discute ensemble. Bref.
Carrément. Et surtout que les challenges sont, je pense que pour les darons, les challenges sont d'autant plus importants après la naissance.
Oh oui.
Donc, parce que là, on parle d'avant, mais.
Très bien. Est-ce qu'on peut revenir sur, effectivement, ce jour où j'imagine ta vie bascule, quoi, tu vois, où...
Le 15 novembre 2019.
Je crois, oui, le 15 novembre 2019. Effectivement, donc tu nous as raconté la rupture d'anévrisme d'Anne-Charlotte à la piscine. Et j'imagine, toi qui reçois un coup de fil.
Oui.
Tu te pointes au CHU. C'est dans quel état d'esprit t'es ?
C'est en fait déjà je reçois un coup de fil. Je suis chez moi, j'ai préparé le déjeuner parce que c'était à midi.
Ok.
Et en fait, j'étais avec mon petit vélo et un peu mon vélo de Nantais avec mon panier de légumes bio devant là. Et je suis passé devant la piscine en fait. Et je me suis dit, ah mais je me souviens qu'Anne-Charlotte voulait aller à la piscine ce matin. Mais bon, j'ai les légumes, donc je trace quoi. Je trace et je fais ma petite popote et puis je vais l'attendre. Et puis là, je reçois un coup de fil. Et je me souviens qu'en fait, je crois que j'étais au téléphone avec ma mère, il me semble. Et puis je vois un double appel, donc ils me laisseront un message. Je raccroche, j'écoute le message, wow. Et donc là j'essaye de rappeler une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et là je fais, bon, qu'est-ce que je fais? Je sors mon vélo, et puis je commence à partir, et là enfin le téléphone sonne. Oui, monsieur Poudret, une voix extrêmement calme. On est avec votre femme, c'est le SAMU du CHU, ne vous inquiétez pas, on est avec votre femme, prenez le temps, mais venez tranquillement au CHU, aux urgences, blablabla. Et là je fais mes machins, en fait j'ai essayé d'en savoir plus, et elle était très, non, mais prenez votre temps, venez, très pisse, carrément suspicieux quoi. Je là, oula, ok, donc ma femme est enceinte, ok, elle était un peu fatiguée, c'est sûr, bon, comme une femme enceinte de 7 mois et demi, et là je me dis, bon, ok, bon on y va, et donc je suis dans un mood guerrier, quoi, c'est-à-dire que je suis sur mon vélo et je vais très vite, Et en même temps, je me dis, mais enfin, garde le contrôle, tu vois, monte pas dans les tours non plus. Et en fait, je suis désorienté parce que j'arrive au CHU et on arrive à Nantes, en fait. Ce que je t'ai pas raconté, c'est qu'on a on vient de déménager, en fait. On est arrivé 3 jours avant. 3 jours avant, on revenait de Lyon parce qu'on avait tous les deux toujours des choses à Lyon en cours. Chacun indépendamment, on était indépendants. Et donc on arrive 3 jours avant déjà, donc je suis déjà désorienté par ça. Et puis 3 semaines avant, on avait déménagé entièrement toutes nos affaires de Lyon à Nantes. Voilà. Donc déjà ça, wow. Tu vois. Et là j'arrive au CHU, puis je savais pas trop où était le CHU, donc j'ai dû regarder sur la carte, quoi, sur le téléphone. Et donc je rentre et on me dit, ah mais non, mais les urgences, c'était l'entrée principale. On me dit, mais non, mais les urgences, c'est à l'autre bout, etc. Alors prenez l'ascenseur, allez au de tel étage, descendez, machin. Et là, je commence à comprendre ce que c'était déjà l'hôpital. Je fais, oh là là. Donc j'ai vraiment mis du temps à trouver. Et puis moins je trouvais, plus je commençais à être perdu, et tout ça. Tout ça pour dire que j'arrive à l'accueil des urgences enfin. Et la dame me dit, Monsieur Poudret, ah c'est vous le mari? Non, elle me dit pas ça, elle me dit c'est vous le mari. Et en fait, elle savait qui j'étais. Et je fais mais ne vous inquiétez pas, allez dans cette salle. Et c'est là où je me retrouve dans cette fameuse salle sans fenêtre, sans personne pour me dire ce qui se passait. C'est là où il manque quelque chose, mais c'est pas forcément de la faute du CHU ou du personnel, c'est qu'il y a pas assez de gens, quoi, c'est pas encadré. Et même si tout le monde fait très bien son boulot, et enfin, c'est juste que moi, en tant qu'expérience utilisateur, c'est nul de dire ça parce qu'en plus, je dis ça un peu ironiquement parce que finalement, on privatise, et au final, c'est difficile, quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que l'hôpital public était déjà dans une situation pas facile. En tous les cas, je me retrouve dans une salle sans fenêtre, sans accompagnement, en attente, et on me dit non, mais attendez, monsieur. Et en fait, pendant ce temps-là, du coup, Anne-Charlotte était dans le bloc opératoire des urgences. Et je savais pas ce qui se passait et j'ai dû me lever et puis aller presque devant les portes battantes, tu vois. Je sais pas si tu vois comment ça s'est fait. Ouais. Les portes battantes qui, si tu rentres, là il faut mettre une blouse, et si tu pousses une autre porte, tu te retrouves dans un bloc opératoire, quoi. Et donc là, c'était un peu vertigineux pour moi. Je fais waouh, je suis devant ce truc là, mais il y a personne, et j'ai
sais toujours pas ce qui se passe pour ta femme, quoi.
Et je sais toujours pas ce qui se passe pour ma femme et pour mon enfant, et je peux pas trop te dire combien de temps il s'est passé. Je sais qu'il s'est passé plus de 10, 20, 30 minutes parce que c'était long, mais j'étais dans un autre état d'esprit pour répondre à ta question. J'étais dans l'instant, en fait. J'étais dans le moment, dans le chaque seconde qui se déroulait, et chaque seconde je les sentais se dérouler. Et je chope quelqu'un qui est le premier médecin qui passe. Il n'y en avait pas beaucoup qui passaient, étonnamment. Je l'interpelle. Je dis, mais monsieur, en fait, je suis dans une salle qui est hyper glauque. On m'annonce ça, blablabla. Et il réfléchit, il fait, ah, ok. Et donc, il connaissait le cas parce que, en fait, je te raconterai plus tard, mais en fait, c'est un cas qui est complètement atypique dans l'hôpital, et tout le monde est plus ou moins au courant de ce qui se passe. Et il me dit, attendez monsieur, retournez dans la salle et on arrive. Et donc j'ai re-attendu encore, là je branche mon téléphone, je commence un peu à essayer d'appeler les gens, qu'est-ce qui se passe, machin. Et du coup, alors je sais plus trop, mais en gros il y a une personne qui arrive. Alors en fait, il y a plein de personnes qui arrivent, en fait, il y en a une, deux, trois. Et là, et c'était l'extrême opposé, je me retrouve dans cette même salle, sur mon petit siège, avec, il y avait une vingtaine de sièges répartis sur le périmètre de la salle. Et en fait, je vois une médecin, la médecin en chef, du coup, une deuxième, c'est très hiérarchisé, en fait. Une troisième, les infirmières, etc. Et en fait, ils étaient une dizaine autour de moi. Tu vois, et wow. Là, tu passes du tout
de
à
la
tout.
La solitude totale, hein, t'es entouré.
Ouais, et t'es entouré, et là, tu fais, ouais, c'est bizarre, il se passe un truc. Et là, ils te regardent un peu comme ça. Tu sais, il y a tout un protocole, j'imagine qu'ils s'apprennent à l'école. Et puis je pense qu'il y a un truc à dire, mais comment vous voyez les choses, vous? C'est-à-dire, ils vont pas vous dire, il se passe ça, au revoir. Non, comment ça va? Qu'est-ce que vous imaginez qui se passe? Des trucs comme ça. Enfin, c'est pas exactement la question, je vais pas dire de bêtises, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on vous fait un peu vous exprimer, tout ça. Ouais. Et je fais, qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, ils me disent tout ça, ils m'expliquent les choses, et puis... Et je pense qu'ils allègent un peu la situation. Ils en parlent. Ils me disent pas très précisément, mais je reste un peu dans cet état d'esprit de me dire, ok, bon, c'est grave, mais on va voir comment ça se va se passer. C'est ok, ça va bien se passer. Puis ils me disent, mais ne vous inquiétez pas, on s'occupe de votre petite fille, de votre femme, et tout ça. Et tout le monde part. Ça dure un certain temps.
Donc ils t'ont déjà expliqué qu'en fait.
Là, ils m'expliquent.
Que ta fille, elle, il l'avait.
Ben, en fait, ils m'expliquent que c'est en cours.
Ok.
Et en fait, quand je te dis que j'ai un doute, que c'est très bizarre, que j'ai un doute sur la chronologie, mais je vais quand même te dire les événements, et je sais plus si l'un arrive avant l'autre, parce que c'est très bizarre. Mais toujours est-il que tout ce petit groupe-là commence à partir. Il y a la médecin en chef, je crois qu'elle a dû se dire, je sais pas s'il a compris. On part, et donc là, je les suis, et ils vont tous rentrer vers le bloc opératoire. Et là, je suis un peu derrière eux, et là, la dame, qui était la médecin, qui était leader un peu du truc, elle se retourne, elle pose la main sur mon épaule, elle me dit, mais monsieur, c'est grave, c'est très grave. Et là je me dis, ah ok. Donc là je comprends. Et parce qu'elle a dû se dire, on n'a pas dû trop lui faire comprendre le truc. Et là elle part, et j'étais là, j'étais glacé quoi. Et après je sais plus si c'est après ou avant en fait, mais en tout cas c'est un autre épisode de ce moment-là qui est une sorte de gros bloc. Il y a une petite jeune qui arrive, qui a 20-25 ans, j'en sais rien, et elle avec sa blouse, elle arrive tout sourire dans la salle où j'étais tout seul pour le coup là. Et donc voilà, est-ce que c'est après, bon, on va dire que c'est après, mais elle arrive, elle fait, monsieur, votre petite fille est née. Et là je savais pas le sexe de l'enfant, je fais, ma petite fille, mais c'est une fille déjà. Puis je dis, oui mais ma femme, comment elle va ma femme, même si j'étais, enfin voilà, j'étais touché, mais tu vois ce que je veux dire, j'étais perdu entre les deux trucs. Et puis du coup elle dit, bah je sais pas, mais en tout cas votre fille va très bien. Je dis, ok, et elle repart. Wow. Et là c'était que des trucs comme ça, c'était des pop-up, tu vois, des trucs boum qui arrivent, hop ça repart, boum ça arrive. Et donc
chaque fois des grosses claques dans la tronche.
Des grosses claques dans la tronche, puis des claques de joie et de peine,
oui,
tu vois ce que je veux dire.
Oui, c'est très ambivalent, quoi.
C'est l'ascenseur émotionnel, pour le coup.
Ouais.
Et j'ai des petits flashs comme ça qui restent. Et puis l'autre flash, c'est les gens qui me disent de venir. Et c'est moi qui marche à côté de la couveuse de Marthe, qui est née par césarienne. Et je savais pas qu'elle s'appelait Marthe à ce moment-là. Qui est née par césarienne, qui est dans la couveuse, toute branchée et tout ça, et les gens et des dames très joyeuses qui marchent à côté, puis qui me disent, mais monsieur, suivez-nous. Et du coup j'avais l'impression un peu de laisser Anne-Charlotte, et ils me disent, mais non, mais ne vous inquiétez pas, ils s'occupent de votre femme, ils sont encore en train d'intervenir sur elle, suivez-nous. Et là on va en service néonatal, néonatologie en fait, avec Marthe couveuse. Et donc à partir de ce moment-là, mon obsession, et donc je te dis, j'étais dans la seconde précise, et là mon obsession c'était, je veux prendre mon enfant sur ma peau, tu vois, en peau à peau. Ça c'est vachement important, je pense, pour les papas, de faire du peau à peau aussi avec les enfants. Et là j'étais en mode obsession, tu vois, je suis passé et à partir de ce moment-là et de cette seconde-là, je savais ce que j'avais à faire. Je sais pas si on peut dire que j'étais guidé, mais en tout cas j'étais, voilà, c'était des décisions à prendre, et en fait j'étais en mode guerrier mais pacifique, tu vois, en mode faut que je fasse ça, ok, maintenant faut que je fasse ça, et j'étais en mode machine mais sensible, en mode machine sensible. Et là il fallait que je prenne mon enfant, et ah non mais monsieur, mais attendez, parce que là elle a les petits, tu sais, c'est trop mignon d'ailleurs, elle a des micro respirateurs pour les tout petits bébés. Et en fait ce qui m'a porté à ce moment là c'est qu'ils m'ont dit, non mais en fait votre fille elle va super bien, c'est incroyable, elle est née pile à la 35e semaine d'aménorrhée, en fait c'est la semaine de viabilité du bébé, donc chance enfin, j'allais dire chance ou autre chose, mais en tout cas, voilà, c'était pile la semaine de viabilité, donc parfait. Enfin, parfait. Et ils m'ont dit, non, mais votre fille va très bien, et elle est en train elle se remet très vite, mais on peut pas vous la poser tout de suite, parce que ça va être pas forcément, ça va pas être bien pour elle. Attendez un tout petit peu, donc j'étais là, et puis, pareil, c'est dur pour moi de retracer les moments, mais c'est tellement à la minute, tu vois, les trucs, ils se passent tellement toutes les 10 minutes, il y a des trucs différents. Et en fait, donc j'ai dû attendre. Voilà, donc j'étais là avec elle et tout seul. Et puis, mais c'était assez beau. Je voyais ses petites mains. C'était magnifique. J'étais assez ému en fait, et j'étais aspiré par ça. Et suite à ça, ils m'ont dit, bah, je pense que votre femme va être prête en service de réanimation adulte. Donc vous pourriez aller voir votre femme déjà et votre famille qui est en train d'arriver, parce que j'avais appelé tout le monde, bien sûr. Et ensuite vous revenez et je vous promets que là vous prenez votre fille en peau à peau, quoi.
Comment tu vis cette journée avec le recul émotionnellement? J'ai l'impression que tu as été trimballé à droite à gauche, tu as l'impression d'avoir tout bloqué, c'est ça, de juste faire en sorte de réussir à rester
j'étais en mode survie, voilà, mais j'étais en mode survie, mais pas pour moi. Je pensais pas à moi, je pensais à qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? C'est quoi? C'est une expérience de vie, machin, mais qu'est-ce que je fais en fait? Parce que on n'est pas préparé à ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour un enfant qui vient de naître? Qu'est-ce que je dois faire pour ma femme qui est, et dans quel état elle est? Et donc j'étais que là-dedans. Et donc j'étais dans aussi essayer de me repérer géographiquement parce que j'étais complètement désorienté. Et là on m'a dit vous pouvez aller en service de réanimation adulte. Je te raconte pas le.
Tu sais pas où c'est.
Je sais pas où c'est. Je te raconte pas. Même si je savais où c'est, je saurais pas où c'est parce que c'est hyper compliqué. Il faut avoir vécu 15 ans dans l'hôpital pour savoir où aller. T'as des étages à descendre, puis après t'as des couloirs labyrinthiques. Et là, elle se regarde. Par ailleurs, au service néonatal, des femmes incroyables, très humaines. Enfin, qui je me suis senti vraiment accompagné par elle, contrairement en réanimation adulte où là c'est ultra froid et hardcore, surtout de la part des médecins. Même s'il y a des gens très 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 oui. bien aussi, mais voilà. En tout cas, elle m'explique ça, puis elle me dit, elle se regarde, elle me dit, ok. Et là, en fait, il faisait nuit, hein, au mois de novembre. Monsieur Poudret, en fait, vous allez passer par dehors, ça va être plus simple. Donc là, il a fallu que je fasse tout le tour de l'hôpital, en passant par les rues et tout ça. Mais j'étais là, je regardais la ville de Nantes, les rues, je voyais l'hôpital, je comprenais ce qui se passait à l'intérieur et tout. Enfin, c'était tellement bizarre, quoi. J'étais sur Mars, en fait, c'était juste space. Et je suis arrivé, et là, j'ai vu, les parents d'Anne-Charlotte, j'ai vu mes parents qui étaient là. Mes parents me disent, ah, mais David va arriver. Et je crois que mon frère est venu me rejoindre à un moment donné dehors pour m'aider, à me guider et tout ça. Et puis, on s'est retrouvé dans une salle d'attente sans fenêtre, dans le service de réanimation dans le service de réanimation adulte. Et puis, ils ont préparé Anne-Charlotte et on l'a retrouvée sous respirateur. Du coup, c'est là où, quand il y avait tout le Covid, j'ai compris ce que c'était, en fait, service de réanimation, respirateur. C'est là où j'ai appris ce que c'était, toutes ces machines. Et puis là, j'étais plus tout seul. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres gens. Et donc, en fait, mes émotions, là, se dispersent un peu. Je vois ma femme, là, et je reste plein d'espoir, en fait. Je suis plein d'espoir. Je vois ses parents... qui sont aussi pleins d'espoir. En fait, il y a peut-être un truc de... Non, c'est pas... Je pense qu'on est optimiste, en fait, dans ces moments-là. Parce qu'on se dit, bon, bah, ok, il s'est passé ça, ok, donc maintenant, on voit les gens, on sait où sont placés les gens, on comprend un peu ce qui se passe, on est moins dans le déferlement d'événements. Et puis, on est dans l'instant. Et puis, après un certain temps, après je sais pas combien de minutes écoulées, je me dis, ok, maintenant, il faut que j'aille voir ma fille. Et là, c'était comme ça les 3 semaines. Et tu vois, et là, il y avait toutes les familles et tout. Je fais, bon, je vais vous laisser, je vais retourner auprès de Marthe. Oui, mais Amaury, il faut que tu te reposes aussi, hein, et tout. Oui, je vais me reposer, mais là, pour l'instant, il faut que j'aille voir ma fille. Et donc, je suis allé voir ma fille, et c'est là où j'ai fait le pot à pot, et je suis resté avec elle une partie de la nuit. Puis après, j'étais trop épuisé, donc je suis allé retourner chez moi à dormir, quoi. Et en fait, ces 3 semaines ont été, si tu veux, une succession de choses que je sentais que je devais faire. Et donc ça. Et j'ai oscillé entre deux personnes, entre ma femme et ma fille. Et j'essayais de faire ce que je pouvais et d'être dans l'instant présent. Et j'étais dans un état de assez je sais pas comment dire, c'était assez beau cet état de présence et de vigilance et de précision. c'était assez fou. Parce que j'étais pas dans le, j'étais dans un calme précis, en fait. Et je sais pas, je pense que j'ai l'impression d'avoir été, d'avoir été aidé, je sais pas comment, en fait. Je sais pas si c'est un processus de survie, je sais pas si c'est quelque chose d'invisible, d'immatériel, je sais pas quoi. Mais en tout cas, j'ai enchaîné ensuite les micro-combats du quotidien.
Bah en fait, je me demandais un petit peu comment ça se passe le process pour toi par rapport au coma d'Anne-Charlotte, en fait, tu vois. Parce que t'as ta fille qui est en train de, j'imagine, aller de mieux en mieux, quoi.
Oui.
Qui, dans sa couveuse, etc. Enfin, tu vois, j'imagine que tu la vois grandir en 3 semaines à cet âge-là, ça doit aller à toute vitesse, quoi.
Oui.
Et à côté de ça...
Oui. Vas-y. Mais 3 semaines, ça va à toute vitesse, mais... tout ça est découpé en quartiers, parce que, en fait, 24 heures, elle va bien... un peu après 24 heures, avant 48 heures, elle sort de la couveuse. Il y a plus de, elle est dans le même environnement que toi, si tu veux. Et là, il y a beaucoup plus de contacts. Après, on enlève, ils lui ont laissé que la sonde gastrique. C'est un truc qui nourrit un petit fil qui nourrit. Je dis ça pour ceux qui savent pas ce que c'est, parce que moi je connaissais pas. Mais un petit fil qui nourrit directement dans l'estomac. Pour un enfant qui n'arrive pas forcément à téter. Et donc, progressivement, il y a des trucs de moins... Il n'y a plus les électrodes, je crois, sur... je crois qu'au bout d'un moment, carrément, on enlève le truc pour contrôler l'identité cardiaque.
Le
rythme cardiaque et tout. Et elle a de moins en moins de fils. Tu vois, c'est ce processus-là, en fait. Moi, je vois cette progression dans le moins en moins de techniques, moins en moins de fils, plus en plus humain. Mais voilà, donc là, je suis à déjà 24 heures, 48 heures. Et ensuite, à 48 heures, donc là, j'étais avec ma fille, puis bah, j'essayais d'être le maximum avec elle, je voulais pas la laisser, quoi. Un petit enfant, t'imagines, qui arrive comme ça, c'est fou, quoi. Et en même temps, fallait que, je commençais déjà avec la culpabilité, tu vois, de dire, bah, non, je peux pas la laisser. Mais après, je disais, mais non, mais là, il faut, parce qu'il faut que j'aille voir ma femme. Mmh. Et puis, bah, j'alternais, hein, comme ça. Et puis, en fait, on se retrouve très vite dans une réunion de crise, en réanimation adulte, autour d'Anne-Charlotte. Bon, qu'est-ce qui se passe? Et nous, on était tout le temps en train de leur courir après, de leur dire, bon, bah, maintenant, il faut qu'on fasse un point. Mmh. Puis les médecins, bah oui, mais de toute façon, ils sont débordés, quoi. Ah, mais on fait une réunion, tous les temps, tel jour à telle heure. Et puis, tu sais qu'on était, le 15 novembre, c'était un vendredi. Donc, en fait, on a traversé le désert du week-end, hein, parce que le dimanche, il n'y avait plus personne et tout. Et moi, c'était hyper dur, quoi, parce que le dimanche, t'es dans un hôpital désert. Et puis, moi, on a commencé à me filer des badges après, tu vois. Parce que je rentrais chez moi, puis bon, bah, bim, je bipais directement, je rentrais, je faisais, c'était la maison, quoi. Dès le dimanche, quoi. Et puis, je crois qu'on a fait une réunion le lundi matin, il me semble. C'est marrant, j'avais jamais revisité ça comme ça, en fait, chronologiquement. Et donc, le lundi matin, on se retrouve en réanimation adulte, et puis là, pareil, la batterie de
Toubib, en fait,
ouais,
toi, c'est ça.
Les deux cow-boys, Toubib, les infirmières derrière. Et puis mes parents, au bout d'un moment, on faisait les réunions que avec mes beaux-parents parce que ça devenait beaucoup plus sensible. Et donc, et là, on discute, machin, ok. Et il se passe ça, votre femme, en fait, on l'a opérée, on a enlevé l'hémorragie, mais là, on sait pas trop ce qui va se passer, donc on a mis des... Alors moi, c'était horrible, ça. On a mis des... je sais pas quoi, des trucs qui endorment, en fait. On l'a anesthésiée, en fait, donc elle, faut pas espérer un signe de sa part parce qu'elle est complètement anesthésiée pour empêcher l'hémorragie. Et moi, c'était trop dur, ça, tu vois. J'avais envie, cette envie-là, ce besoin qu'on lui enlève tout ça pour qu'elle puisse émerger, si tu veux. Mais là, il y avait aucune chance. Ah non, mais faut que vous patientez tant de jours parce qu'il faut pas qu'elle émerge pour l'instant, parce qu'il faut qu'on voit. Et au bout d'un moment, en fait, ils ont arrêté les produits et ils se sont aperçus que l'hémorragie avait arrêté. Donc, on a eu un espèce de regain d'espoir, en fait. Et c'est là aussi les senseurs émotionnels. Hein. C'est que, en 3 semaines, je te dis, il s'est passé un univers, quoi. C'était ouf. Et là, à ce moment-là, dans cette réunion-là, le lundi, donc, deux jours et demi après, et là, c'était la première idée qui me venait comme ça, l'espèce de flash. Et je leur dis, en fait, moi, ce que je voudrais faire, c'est amener ma fille sur ma femme, en fait. Parce que ma première étape, c'était peau à peau. Puis là, j'ai fait peau à peau avec sa maman. Donc, c'était très simple. Et là, ils sont tous regardés, genre, c'est compliqué, monsieur Poudret. qui sont regardés les gens qui étaient avec moi de la famille, ils sont regardés entre eux, les infirmières, machin. Je vois tous les regards qui se tournent les uns vers les autres, ouais. Personne ne voulait répondre. C'est un peu compliqué, monsieur Baudrey. Je fais oui, mais en fait, c'est ce qu'il faut faire. Enfin, je veux que ma fille, elle soit sur sa maman, en fait, le plus rapidement possible. Et là, ils ont fait d'accord. Puis ils parlent d'autre chose, et puis je reviens sur le sujet. D'accord, monsieur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler, le service néonatal, et puis on vous tient au courant. Ok, vous me tenez au courant, donc quand exactement? Et en fait, il fallait toujours que j'assure le truc, quoi. Et en fait, ça a été possible. Grâce au service néonatal. Parce que réanimation, c'était pas possible, quoi. Et là, j'ai pu entamer un rythme quotidien, ensuite tous les deux jours, de traverser tout l'hôpital, tout le labyrinthe, au départ avec les infirmières qui me mettaient sur un fauteuil roulant avec toutes les machines, sous le fauteuil avec ma fille sur moi. Et en fait, je passais une demi-heure, une heure à côté de ma femme en service de réanimation adulte sous respirateur. Je mettais mon enfant en grenouille sur sa poitrine, en fait, pour qu'elle ressente son odeur, son battement cardiaque. Et je voyais Marthe. Elle avait pas de prénom encore, et je voyais Marthe qui changeait, en fait, tu vois, qui se relâchait. C'était magnifique, c'était des moments incroyables, et j'ai commencé à être connu des services, parce que voilà, je venais tous les jours, c'était un peu le mec qui arrivait, surtout dans un service comme ça, tu vois, et tu amènes de la vie dans un service de mort, en fait, c'est assez étonnant. Un service de mort. En fait, le but, c'est de ramener, c'est de les gens qui sont entre deux, puis de les ramener. Mmh. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui décèdent tous les jours, quoi, dans ces services-là. Et c'était super beau. Et puis, progressivement, on a eu des espoirs. Ils ont refait une opération. Et là, c'est devenu compliqué, en fait, hein, parce que je sais plus trop ce qui. En fait, il y avait pas de signes, si tu veux. Il y avait des petits signes de réveil. Donc, j'étais dans ce rythme-là quotidien. Et puis, en fait, on espérait un signe de réveil, en fait. Et puis, moi, je lui parlais, hein, Charlotte aussi. Et puis, tu vois, tu lis des trucs aussi. Tu te dis, mais les gens, quand ils sont dans le coma, en fait, ils te voient d'une certaine manière. Il y a une conscience. C'est là où tu peux absolument pas croire que. Enfin, je respecte les avis de chacun, mais tu vois, si t'es athée, tu dis, non, il y a le corps, et puis quand tu meurs, il n'y a plus rien. Enfin, je veux dire, pour moi, d'après ce que j'ai vécu, c'est pas possible. Il y a quelque chose. Il y a une énergie, il y a une âme qui est quelque part, qui est, peut-être qu'elle n'est pas dans le corps, je sais pas. Et tu voyais sa main bouger, en fait. Là, c'était fou, quoi. J'ai eu l'impression qu'elle me serrait la main de très doucement, comme ça, et là je fais waouh, il se passe un truc, enfin ça te fait des trucs, ça te fait des, je sais pas, c'est un électrochoc, quoi. Mmh. Et donc tu gardes quand même espoir, puis il y a tout un travail, puis ouais, je sais pas, t'amènes des fleurs aussi, puis t'essayes d'amener de la vie dans tout ça. J'étais en contact avec des gens, je discutais avec... Et en fait, ouais, ils ont fait une deuxième opération, en fait, au cerveau. Et c'est là où tu te dis, Et là, en fait, il y a un médecin qui a commencé à me dire, on faisait des réunions régulières, et il a commencé à me dire, mais vous savez, monsieur Boudray, en fait, si votre femme n'avait pas été enceinte et avait eu 10 ans de moins, 10 ans de plus, pardon, on aurait rien fait, en fait. Et là, je fais, waouh. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'en fait, c'était possible, que c'était fini. Et là, ouais, cette deuxième opération, et puis. Et puis du coup, je commençais à amener Marthe, mais en fait, quand quelqu'un est dans le coma, progressivement, ses odeurs ne sont plus les mêmes, les produits, tu vois, c'est... Et puis, il y a eu un autre combat que j'ai mené dans les débuts, c'était de tirer le premier lait. Mais du coup, les gens m'ont dit, mais non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis toutes les infirmières, c'est pas possible. Bon, on en reparle demain, on fait une réunion, ok. Et puis là, j'ai fait, de toute façon... J'étais tellement, mais il n'y avait pas d'autre possibilité. Si je pensais qu'il fallait faire un truc, il fallait absolument que ça se fasse.
Okay.
Et en fait, ce que j'ai appris, et c'est dans tous les hôpitaux, je pense, et il faut le savoir, c'est qu'en fait, les gens te guident en tant que toi, en tant que patient. Ils te guident vers ce qui est le plus facile, le plus pratique, le plus économique peut-être, ou le plus probable, le plus scientifique, le plus technique. Et en fait, toi, quand tu ressens un truc profondément, et là, et c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que dans ces moments-là, t'es dans le ressenti, mais profond, quoi. Et t'as des trucs, t'as des certitudes, il faut que ça se passe. Et en fait, si les gens te disent non de manière unilatérale de l'hôpital, que toi t'y crois et que t'insistes, ils te diront oui à un moment donné, c'est sûr. C'est assez fou. J'ai expérimenté et puis je testais un peu comme les enfants testent leurs parents. Mmh. Et je me suis aperçu qu'en fait, tout était possible. Et là, tout était possible. J'ai pas fait n'importe quoi. Bien sûr, c'est des choses que je voulais absolument, que je sentais importantes. Et en fait, quand une femme accouche, il y a le premier lait qu'il faut aspirer parce que ça fait mal sinon. Tu vois. Et je voulais absolument, je sais plus comment ça s'appelle, le colostrum. Voilà, ouais. C'est ça. Et je voulais absolument qu'ils aspirent ça dans les tout premiers jours. Et ils m'ont dit, oui, mais vous savez, monsieur, mais d'ailleurs, oui, c'est très nourrissant aussi pour l'enfant, mais vous savez, elle est sous, je sais pas comment ça s'appelle, sous produit...
Anesthésiant,
ouais, sous... Je sais plus comment ils appellent ça. En tout cas, elle est sous produit, et en fait, on pourra jamais donner ça à votre enfant parce que c'est toxique. Ah oui, mais en fait, c'est pas le problème. Moi, je veux qu'il se soit tiré parce que c'est pour son bien-être à elle, puis c'est pour le... Je sens qu'il faut le faire et tout ça. Et donc, ils l'ont fait, en fait, au final. Okay. Alors qu'ils voulaient vraiment pas. Et ça, c'était un des combats. Et puis, un autre combat, c'est qu'à un moment donné, donc, je faisais mon truc et j'amenais Marthe sur Anne-Charlotte. Et puis, en fait, au bout d'un moment, pour les médecins, c'était fini. Et ils nous l'ont dit assez clairement. Et moi, j'étais là, mais c'est pas fini tout de suite, en fait. Je sentais que c'était pas... Puis de toute façon, on le sentait tous. Enfin, on se disait, mais... Enfin, je pense qu'en fait, on a juste l'espoir et puis qui nous fait tenir. On se dit, mais ah bon. Et du coup, on entend des messages tragiques en disant, mais ouais, mais en fait, je pense qu'il n'y a plus d'espoir. Et puis si jamais votre femme revenait, elle serait lourdement handicapée, des trucs comme ça. Enfin, c'est ultra violent, en fait. On sort de... C'est ultra violent. Et en fait, je continuais quand même, pour le bien-être de Marthe, à amener... Marthe sur Anne-Charlotte. Et là, il y a un médecin, il voulait faire la toilette ou je sais pas quoi. Et là, c'est là où je te dis que j'étais très, très, très choqué. Et je leur ai dit d'ailleurs, il y a un médecin qui arrive et qui dit, mais. Je lui dis, mais attendez, monsieur, mais. Là, on vit un moment à trois. C'est hyper précieux, en fait, pour moi. Il y a ma fille sur sa maman, je suis là. Et puis en plus, on voyait sa poitrine, tu vois, enfin, c'est intime, quoi. Et là, il y a un médecin qui était un peu indélicat qui arrive et qui dit, mais en fait, monsieur, mais vous croyez quoi, en fait? Votre femme est dans le coma, là. Mais qu'est-ce que vous faites et tout? Et là, j'étais, mais bien sûr, mais en fait, je crois qu'il comprend pas ce que je suis en train de vivre. Il comprend pas ce que je fais, quoi. C'est une sorte de processus aussi pour ma fille. On la voit pas tous les jours. On la fait une fois tous les deux jours. Et le gars, il est en train de... Tu sais, c'est comme si quelqu'un rentrait dans un lieu sacré et se mettait à crier, quoi, tu vois. Oui. C'est ultra violent, mais c'était... Je l'ai vraiment vécu, mais... Et là, je le regarde, je fais... Et là, en fait, j'avais envie de m'énerver, puis je me dis, mais non, c'est pas le moment de t'énerver, en fait, t'es là. Et là, je l'ai regardé, tu vois. J'ai pris un moment et j'ai fait, ok, monsieur, d'accord, ok. Ok, très bien.
Oui, complètement à côté de du moment que tu étais en train de passer.
J'étais dans un... Je me suis dit, j'ai le choix. Soit je peux me mettre en colère, j'ai très envie, j'ai le choix. Ou alors je continue de vivre ce moment et je coupe pas le lien. Il y avait un truc, tu vois. Il y avait un lien, mais invisible. Et il s'est dit, ouais, lui, il est un peu fou, je sais pas quoi. Enfin bref, je suis resté comme ça, je le regardais, mais d'une manière bizarre. Et puis, j'ai dit, d'accord, monsieur, d'accord. Puis j'attendais qu'il parte. Et il est parti. Et on a fini ce moment, et puis à partir de ce moment-là, c'est là où, tu vois, je me suis dit, ok, bon, ça va être fini, ça y est. Mmh. Et j'ai fait part, là, dans la réunion d'après, parce que c'était vraiment ça, quand je dis réunion, ça paraît froid, mais c'était vraiment ça. Ouais. Et j'ai dit au médecin qui était son responsable, j'ai dit, vous savez, j'étais extrêmement choqué, en fait, par l'attitude de cette personne-là, je ne savais même pas son nom. Et puis, du coup, ils sont venus s'excuser après... Enfin bon, et puis en fait après on a eu la visite du directeur de la maternité. Enfin, en fait tout le monde était sonné, en fait, ils comprenaient pas ce qui se passait. Et puis les services néonates adultes, ils sont jamais en lien. Enfin, il se passait des trucs bizarres, il y avait des liens qui se faisaient pas normalement. Ouais. Enfin bon, et ensuite est venu le moment fatidique en disant bon ben en fait votre femme, il y a pas d'espoir, c'est fini. Et oui, elle respire, oui, on dirait qu'elle est vivante. Mais en fait, c'est une machine, c'est un respirateur. Et on va devoir programmer l'arrêt du respirateur, quoi. Et puis là, il déblatère les trucs. Et puis moi, j'étais toujours dans le présent. Et puis là, je le laissais parler. Et puis quand les gens arrêtaient de parler, j'ai dit, bon, en fait, j'aimerais bien dire une idée qui me vient, mais bon, je voudrais avoir votre avis. Moi, je voudrais être présent à ce moment-là avec ma fille. Et en fait, le 7, Anne-Charlotte est décédée le 13 décembre, le jour où ils ont arrêté le respirateur. Et le 7 décembre, ma fille est partie de l'hôpital. Je l'ai prolongé en plus, parce qu'ils m'ont dit « Non, mais là, votre fille, elle est en pleine forme, c'est bon, c'est fini. » Et j'ai dit « Oui, mais attendez, parce que là, je suis tout seul. Je suis tout seul, j'ai rien, j'ai pas de poussette. » Parce que tout ça, c'est plein de détails. Là, on pourrait en parler 10 heures, hein, mais il y avait rien. On venait de déménager, il y avait une salle, mais il y avait rien dedans. J'ai commencé à installer des trucs avec mon père. Enfin, je veux dire, c'est fou, quoi. Enfin, j'étais pas prêt, quoi.
Oui, vous étiez pas prêt.
Et donc, le 7, j'étais avec ma fille, et puis cette décision a dû être prise, je sais pas trop, après, un peu après. Et là, je lui disais, moi, je veux venir avec mon enfant, en fait, à ce moment-là, qui est extrêmement important. Et là, ils se sont dit, oh non, mais là, il va trop loin, stop, non.
Il est taré, le poudré.
Ouais, il est fou. Après, je te relate, moi, mon expérience.
Sûr.
Mais c'est... Enfin bon, en tout cas, et ils se sont dit, non. Puis là, il y a une infirmière qui était en dehors, toujours en retrait des médecins, qui commence à dire, excusez-moi, je peux intervenir? Oui. En fait, je pense vraiment que c'est vraiment une mauvaise idée, ce sera un traumatisme pour votre enfant, etc. Puis là, il y a mes beaux-parents qui étaient à côté, ils ont dit, non, mais Amaury, c'est hors de question. Enfin, tu te rends compte, un enfant, et tout ça. Et puis là, j'ai dit ok, bon, je me tais parce que là, ça, c'est vraiment, ça a l'air bizarre, alors que j'ai l'impression qu'il faut que je fasse ça. Ouais. Et en fait, du coup, j'en ai parlé à des gens autour de moi, puis tout le monde disait non, mais Amaury, tu te rends compte, c'est pas possible. Même mes parents qui étaient très d'accord avec moi depuis le départ, ils me disaient non, là, c'est bizarre. Et j'en ai parlé à une amie, Lina, une amie très proche d'Anne-Charlotte, qui était plutôt dans mon sens. Elle me disait mais si. Tu te rends compte, mais bien sûr, attends, c'est tellement important, c'est un moment que vous devez vivre à trois. Et puis j'en ai parlé ensuite à cette fameuse sage-femme qui fait de l'autonomie à Nantes, qui était une magnifique rencontre. Et en fait, elle m'a dit la phrase clé, parce que j'étais prêt à ne pas le faire, enfin, je suis pas têtu, quoi, enfin, si pas. Mais c'était une question, quoi. Elle me dit, mais monsieur, est-ce que vous voyez, vous imaginez dans 10 ans dire à votre fille qu'elle n'était pas là? Et là, je fais. Ah ouais, non, mais là, voilà, mais c'est bon, on y va. Et en fait, j'ai réussi à convaincre tout le monde. C'est pour ça que je te dis que tout est possible quand vraiment t'as un refus catégorique, mais que tu crois que c'est ce qu'il faut faire, bah, tout est possible. Et donc, je suis arrivé, et donc le 13 décembre, en fait, ils ont enlevé le respirateur. Et en fait, j'avais tout prévu avec mon père qui était censé s'occuper de ma petite fille le moment opportun, que je jugerais opportun. Et en fait, ils ont enlevé le respirateur, et puis on a pu passer un moment tous les trois sans rien. Il n'y avait plus de machine. D'un seul coup, on était dans un environnement apaisé, parce que ce qu'il faut dire, c'est que la technologie et la machine dans les hôpitaux, particulièrement, elle déshumanise l'ensemble. En fait, c'est fou. Et là, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de chiffres à l'écran. Il n'y avait plus d'écran d'ailleurs. Il n'y avait plus de fil. Il n'y avait plus rien. On était nus face à la vie et à la mort, en fait. Et c'était hyper fort, parce que j'étais avec Marthe, je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu vois ce qui se passe, voilà, je lui ai tout dit, en fait, comme un adulte. Voilà, ta maman, est-ce qu'il s'est passé ça, t'es né comme ça, on vit ça en ce moment, ta maman, elle part, je sais plus trop quel terme j'ai employé, en tout cas, physiquement, elle va partir, mais elle est toujours là avec nous d'une certaine manière. Et puis ensuite, je me suis un peu retiré. Et puis, en fait, on était tout seul, alors qu'il y avait tout le monde autour du lit. Il faut se dire aussi qu'il y avait toutes les familles, tu vois. Et là, j'avais l'impression qu'on était tout seul. Je sais pas comment dire. Je suis tellement heureux d'avoir vécu ce moment. Si je l'avais pas vécu, c'était là, ça aurait été difficile. Tu vois, c'est émouvant d'en parler pour moi là. Mais je suis tellement content d'avoir vécu ça. Oh, parce que sinon ça aurait été horrible, quoi. Si j'avais suivi le protocole technique de l'hôpital, c'était tragique, quoi. En tout cas, on a vécu ce moment d'humanité ensemble. Et puis j'ai senti que c'était oula, ok, là il faut y aller. J'ai senti que là, ma fille, ça y est, on avait fait ce qu'il fallait. Je regarde mon père, je lui fais un signe, je lui dis, ok, je lui donne ma, enfin je mets la petite ma petite fille dans la poussette. Et mon père, c'était presque, il y avait presque pas de mots en fait, c'était intuitif. On se dit ok, hop, mon père emmène ma fille chez moi. Et moi je reviens dans la salle. Et là, c'est là où j'assiste à la mort universelle en fait. Et je me suis dit c'est incroyable parce qu'on a vécu ce moment de flottement hors du temps tous les trois. Il y a eu une connexion. Et puis je suis tellement enfin, merci quoi. Tu vois, c'est une grâce de dire bah ok. Maintenant, c'est plus pour les enfants du coup, tu vois. Et c'est plus pour nous trois. C'est autre chose qui va se passer en fait. Mmh. C'est un passage, tu vois. C'est ouf. Et là, j'ai vu du coup quelque chose qui est une expérience incroyable où je me suis heureusement voilà je fais un peu de méditation. Je me suis mis dans un. J'essayais d'être vraiment très très présent à tout ce qui se passait. Et j'ai vu du coup Anne-Charlotte partir progressivement. On a vécu ce moment de départ qui est très impressionnant parce que on voit un corps, on voit un passage en fait. On voit un passage et puis j'ai pu vivre ça du coup de différentes. Ce moment-là, je l'ai vécu de différentes manières. Je l'ai vécu dans l'amour et dans le partage avec mon enfant. Je l'ai vécu dans la présence aussi, très très pleine avec moi-même, avec Anne-Charlotte aussi. En fait, on a vécu ces phases-là et c'était très 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 puissant en fait. C'était fou. Et puis bah après le médecin atteste, dit bah oui, en fait progressivement la respiration s'arrête et voilà, elle part. Voilà.
Et tu te retrouves tout seul, papa solo.
Ouais, papa solo.
Parce que j'imagine que jusque là,
c'est l'autre étape.
Ouais, j'imagine que jusque là, il y avait un peu ce truc de bah potentiellement elle va revenir et en fait on va pouvoir créer la famille, etc., etc., dans lequel tu t'étais, j'imagine, projeté, enfin comme normal, quoi.
Bien
là,
sûr.
Bon, bah, c'est fini.
Ouais, là c'est vrai, c'est tout à fait ça. Là c'est vraiment un passage clé. Effectivement, et on n'est plus, bah du coup, bon, bah, voilà, on n'est plus finalement, on n'est plus dans l'illusion, parce qu'il y a quand même à un moment donné une part d'illusion. Tu te dis, bah ouais, mais c'est quand même possible, tout est possible. Et puis t'entends des scénarios de gens qui font des AVC ou des choses de ce type-là qui sont dans le coma et qui reviennent. Ouais. Et tout le monde disait qu'ils allaient pas revenir. Et
puis c'est important, je crois, de le faire ce processus là aussi, tu vois.
Ouais, et d'ailleurs d'ailleurs je me dis ça aujourd'hui, c'était beau de finalement vivre en fait ces trois semaines, même si c'était très dur et plein d'adversité. En fait c'était une sorte de, finalement ça a fait que le passage était doux aussi. Parce que même pour Marthe en fait c'était pas que bim coup près et c'est
pas
fini,
une mort violente, quoi.
Enfin, ouais, c'est ça, tu vois, enfin c'est, il y a un accompagnement. Ouais. Mais oui, et effectivement, et là, on bascule dans un autre monde où là, effectivement, je suis tout seul en fait pour faire face à ce que normalement des couples vivent avec un enfant nouveau-né qui fait passer nuit. Et là, en fait, c'est hyper dur, quoi. Parce que waouh, enfin, je veux dire, ouais, il y a le moment. Finalement, il y a le moment magique. Mais moi, là, je parle de même pour les couples, pour tout nouveau-né, en fait, il y a le moment magique de la naissance. Même si moi, bon, bah, j'ai pas vécu ce que peut vivre un papa, couper le cordon, etc. Enfin, tu vois. Mais je l'ai vécu d'une autre manière, peut-être plus autrement, quoi. Et là, ouais, c'est vrai que de se retrouver tout seul avec l'enfant, mais j'avais besoin aussi, quand même. J'avais besoin. Tout plein de gens m'ont proposé leur aide, et bien sûr, et je les remercie. Mais en fait, j'avais besoin d'être face à moi-même, en fait. J'avais besoin d'être face à ce que je devais affronter. J'avais besoin d'être seul avec mon enfant. Et j'ai vécu quelques jours, je sais plus trop combien d'ailleurs. J'ai vécu quelques moments où je faisais les nuits, où j'ai oublié tout le reste, en fait. Et j'étais concentré avec ça, et puis. Bah voilà, et puis t'as tout quoi en fait. T'as les biberons, les réveils, les pleurs, les sorties, la fatigue, le fait de pas pouvoir prendre une douche en fait, tu vois, c'est tout con, mais enfin, plein de mamans te diraient ça. Mmh. Bah ouais, en fait, je peux juste pas prendre une douche, c'est pas possible. Je peux... Enfin, mon bébé, c'est fou. Et puis voilà. Et puis assez vite, je sais pas quand, mais il y a une aide à domicile qui est venue. Et j'étais content parce que c'était quelqu'un extérieur à la famille qui venait aussi. Mmh. J'avais besoin de ça en fait. J'avais besoin de me retrouver malgré tout dans un foyer et puis d'essayer de faire les choses moi-même. Et donc une personne extérieure, Françoise, est venue très vite et qui a noué un super lien avec Marthe d'ailleurs. C'est émouvant. Et qui est venue, bah du coup là c'est, en fait en ce moment très récemment elle a arrêté de venir, donc c'est pour ça que ça m'émeut parce que voilà, elles ont toujours un lien très fort en fait, Françoise et Marthe, puisqu'elle est venue, elle venait pas tout le temps,
il y a un an et quelques mois, c'est ça,
comment,
Marthe aujourd'hui qui a, attends, non, deux ans
et trois mois. Non mais
tu sais, les années de Covid, moi je sais plus.
Ouais c'est vrai, c'est
je sais plus faire de calcul.
Okay, c'est un autre truc encore. Ouais.
Et ouais, donc tu t'es retrouvé avec cette aide à domicile qui
venait pas tout le temps, hein. Je te dis ça, mais ouais, elle venait m'aider à faire le ménage, puis à s'occuper un peu de Marthe, puis moi ça me permettait de prendre, mais c'était plus tard encore, hein. Je te dis, il y a toute une période de de face à face, et puis après il y a une période où je dis ouais, mais là j'ai besoin d'aide, et donc j'ai vachement été aidé, hein, tout de suite on m'a proposé ce service d'aide à domicile, et donc elle vient, je sais plus trop au début, en fait c'est tellement, on oublie, mais elle vient peut-être 3 jours, 4 jours par semaine, je sais plus, pendant une demi-journée ou un peu plus. Et puis progressivement il y a un rythme qui s'installe. Et ouais, donc ça m'a beaucoup aidé, ouais. Et puis bon, bah bien sûr, les familles qui... la maman d'Anne-Charlotte qui est venue aussi à la maison, son papa aussi. Et, bah, des petits séjours, mes parents aussi. Et puis tout ça, en fait, il y a des amis. Une amie d'Anne-Charlotte, qui d'ailleurs... qui est venue cuisiner des choses à la maison, qui m'a congé plein de trucs, tu vois, des trucs comme ça, et ça c'est une aide énorme. Et ça c'est un truc que j'ai appris, c'est que quand quelqu'un est en difficulté ou vit quelque chose de difficile, on peut lui dire, je sais pas si c'est universel, mais moi c'est ce que j'ai vécu, quand on me dit bah, si tu veux je peux t'aider, tu t'hésites pas à me solliciter, etc., et c'est super sympa, mais quand on est dans ces situations là on n'arrive pas à dire ah bah oui c'est vrai qu'il y a machin qui m'a dit qu'il pouvait m'aider, donc je vais l'appeler. En fait non, on fait juste les choses, c'est plus simple, puis on n'a pas le temps de cerveau disponible pour ça, et en fait c'est tellement une aide précieuse, quelqu'un qui te dit bah, je vais venir chez toi tel jour, je vais cuisiner des trucs, je vais te les congeler, comme ça t'auras ça, tu vois, je vais venir chez toi, machin va garder ton enfant, je t'emmène au cinéma, ou des trucs comme ça en fait, et ben ça c'est génial.
Ouais, c'est un très bon tip, cette histoire de manger, justement c'est un cadeau de naissance qui peut être très cool aussi à offrir, tu vois. Si vous êtes dans le coin de, je sais pas, un frère, une sœur, un ami, machin, de venir proposer de faire de la bouffe.
Ouais, c'est vrai,
souvent,
c'est super.
C'est un truc hyper simple à faire, entre guillemets. Et c'est le genre de truc que tu prends pas le temps de faire parce que t'as d'autres choses à faire quand t'es jeune parent. Alors, quand t'es solo, encore plus, j'imagine. Mais...
Mon frère aussi qui est venu faire ça, justement, cuisiner.
Donc, ouais, ta fifi aujourd'hui a bientôt 2 ans et demi.
Oui.
Comment ça se passe?
Trop bien. Et c'est difficile, bien sûr. Mais elle va. En fait, ce qui est super, c'est qu'elle va bien. En fait, elle est joyeuse. Et c'est vraiment la vie, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. Après. Je te dis ça, hein. Puis bah, y a les bons jours, il y a les mauvais jours, et c'est aussi très difficile et très épuisant et fatigant, parce que comme n'importe quel parent, mais ouais, c'est une petite fille vraiment incroyable. Après bon, le papa qui dit ça de sa petite fille, tu vois, ça fait papa gaga, mais c'est vrai que je la trouve vraiment, vraiment, Enfin, elle m'impressionne, quoi, en fait.
Comment t'as fait de ton côté pour faire le deuil de cette vie que j'imagine t'avais programmée aussi J'imagine que quand tu rencontres une Charlotte, que tu lui dis que t'as envie de faire un enfant avec elle, etc., il y a plein de projections. On parlait tout à l'heure de plans et de projections. Ça a été quoi ton process? Suivi par une thérapeute, un thérapeute, une psy?
Pour faire le deuil, oui. Ouais, c'est tout un processus qu'il faut laisser faire d'ailleurs. Hein. C'est des choses. Puis c'est pas linéaire, quoi. C'est up and down.
Ça prend du temps.
Ça prend du temps. Il faut laisser le.
Il faut être sympa avec soi.
Ouais, ouais, la douceur. Faut accepter d'être en colère aussi. En fait, moi, ça fait un moment que je suis engagé sur un. Plus ou moins engagé sur un parcours intérieur de découverte intérieure, et okay. Heureusement.
Oui. Ah, avant ça, tu veux dire?
Avant.
Ok.
En fait, en 2013, déjà, j'ai fait une retraite Vipassana de 10 jours dans le silence. Tu connais Vipassana?
Oui.
Selon Goenka. Ouais. Ouais. Bon, voilà, j'ai
fait une retraite. Vous allez méditer pendant 10 jours, pendant plusieurs heures par jour.
10 heures par jour.
Sans regarder qui que ce soit, sans parler à qui que ce soit, sans lire quoi que ce soit.
Sans lire, sans crayon, sans portable évidemment.
Sans musique, sans rien. Sans le vide.
Ouais, le vide absolu.
J'ai jamais fait, hein, mais je
recommande.
J'ai expérimenté des journées déjà, c'est pas mal.
Ouais, une journée c'est. Mais c'est plus dur finalement presque parce que au bout de. Enfin, plus dur non, mais. Enfin, il faut un temps quoi, il faut beaucoup de temps pour déconnecter, puis au bout d'un moment on rentre dans le truc. Donc en 2013 j'ai fait une retraite Vipassana, j'en ai fait une autre en 2018 en Suisse, et avant de se marier avec Anne-Charlotte en juillet, au mois de mai, je me suis dit ce serait bien quand même que je fasse une session Soteria, parce que
une session,
alors Soteria, donc c'est une je reviens en arrière, Anne-Charlotte a beaucoup travaillé sur elle aussi jusqu'à faire une formation en psychothérapie, enfin pour devenir psychothérapeute. Et elle a une chose qui a favorisé son changement de vie, puisque avant elle était dans la finance, elle était DAF dans un okay. groupe.
Ça et, sent la reconversion et la
ouais, grosse de sens. Reconversion, grosse reconversion. Et puis ensuite elle a fait un CAP fleuriste, enfin tu vois.
Okay.
Et en fait, ce qui a participé beaucoup à un changement intérieur, à quelque chose de, à une ouverture, c'est des sessions Soteria formation avec Maggie Méchino. Et ça l'a beaucoup marqué. Et puis elle me parlait de ça, et puis elle me dit ah, mais tu devrais faire une session. Puis bon, à chaque fois on repousse. Et puis puis c'est de base chrétienne, sans être religieux, encore une fois, c'est inspiré par ce message-là, mais c'est ouvert à toutes les confessions, aux laïcs et tout ça. Il n'y a pas de. C'est pas religieux, quoi.
Okay.
Ça me bloquait un peu. Je me suis dit, ouais, mais
alors c'est quoi?
Je veux pas faire un truc comme ça. Et c'est dur à expliquer.
Ouais.
Mais en tout cas, au mois de mai, je me suis dit, mais c'est quoi en fait? Donc j'y vais. Ok, je fais une session au mois de mai, on va se marier, j'ai envie de savoir ce qui t'a transformé toi, ce qui a participé à ta transformation. Et donc, tout ce que je peux dire, c'est que c'est des sessions de 5 jours collectives, et c'est complètement différent du coup d'une retraite Vipassana où on est face à soi-même pendant 10 jours dans le silence. Là, on est face aux autres, aux problèmes des autres, à ses problèmes, et on peut, par la créativité, par l'expression, on peut aborder... et revisiter ces éléments du passé, on peut revisiter son histoire, on déprogramme les choses en fait, et on par la revisitation, par tout ça. Et donc ça s'appelle c'est du psycho-spirituel, psycho-corporel et spirituel.
Okay.
Et donc le corps engramme plein de choses qu'on a vécues psychologiquement, et par le corps on va libérer ces traumas éventuels et tout ça et tout ça. Et j'ai trouvé ça absolument génial. J'ai fait ça au mois de mai. Et tu vois, heureusement que j'ai fait ça au mois de mai. C'est incroyable. Parce que ensuite, mois de novembre, arrive le drame. Et en fait, j'étais en lien avec Maggie, du coup. Maggie qui fait ces sessions-là, qui connaissait très bien Anne-Charlotte. Et elle parlait même de collaborer ensemble parce qu'elle se reformait en psychothérapie, etc. Et nous arrivions à Nantes, dans la région de l'Ouest où Maggie est installée, il y avait un lien qui s'était créé. Et justement, quelques jours avant ce qui s'est passé, le 15 novembre, Anne-Charlotte avait fait un mail à Maggie. « Ah, il faut absolument qu'on passe te voir avec Amaury et tout ça, tout ça. » Et quand Maggie a tout suivi ce processus, et ça m'a beaucoup aidé aussi d'échanger avec elle, qui me connaissait plus intimement, du coup, parce que j'avais fait une session au mois de mai, donc elle me connaissait quand même. Et elle était très investie, enfin très concernée par tout ça. Et le 9 janvier, elle m'appelle en me disant « Anne-Charlotte et moi, nous t'invitons à faire une session. » Et en fait, cette phrase-là qui reste m'a tellement ému que je me suis écroulé, enfin je me suis mis à pleurer. Et en fait, ce signe-là est devenu le grand oui. Je me suis dit, ah ouais, quand j'ai cette réaction-là, c'est que c'est oui absolument, quoi. Et je me suis dit, waouh, ok, faut que je fasse... Parce que ma première réaction, c'était au départ, c'était de penser, mais attends, j'ai un enfant. Tu vois, il y a eu l'enterrement le 18 décembre. Là, on est le 9 janvier. Enfin, je suis dans le jus. Faut que je peux pas, machin. Et puis là, d'un seul coup, ok. Et
ton corps, il a parlé, quoi.
Et ouais, mon corps a parlé. Et en fait, quand je te dis 9 janvier, c'était le début de la session, mais elle m'a proposé avant ça, donc c'était juste après, en fait. Okay. Elle me dit, mais c'est tout de suite qu'il faut rentrer, et qu'il faut revisiter, qu'il faut pas laisser les choses s'enquister, tu vois.
Okay.
Et je suis, merci de cette session-là, tu vois. Parce que j'en ai fait une, du coup. Donc je réponds à ta question, ouais. C'est comme ça un peu que j'ai traité tout ça, que j'ai abordé tout ça. Et j'en ai fait une autre après, au mois de juin, enfin en tout cas, entre aujourd'hui à l'instant T, je crois que j'ai fait 6 sessions avec elle.
Okay.
Et ça m'a vraiment porté, ça m'a aidé, et puis c'est allé largement au-delà de mes espérances.
Les abordes d'une autre façon, c'est ça.
En fait, oui, et puis t'as pas toujours les mêmes sessions. T'as la session de base qui s'appelle se délier des entraves du passé, puis après t'as les sessions de croissance. Puis j'ai fait aussi un jeûne de 7 jours.
Ouais.
En traitement en plus, enfin en traitement, je veux dire en exploration intérieure aussi. Donc c'est encore plus intense quand t'es dans la vulnérabilité du jeûne. Et qu'est-ce que je veux... Oui, et en fait, le décès et ce que ça a fait en moi, et comme le dit d'ailleurs Maggie, ça rebondit sur la peau de tambour de l'enfance, puisque en fait, ce que ça fait écho à plein d'autres trucs, c'est-à-dire que finalement, si tu souffres, c'est pas à cause... bien sûr, c'est un événement dramatique, mais ce qui t'arrive n'est pas le plus important, c'est comment tu y réagis et comment tu l'intègres dans ta vie pour en faire quelque chose de positif. Et en fait, ces événements-là vont faire écho à plein d'autres trucs qui sont beaucoup plus profonds, en fait, qui remontent à très 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 loin, en fait.
Ce que t'appelles la peau de tambour de l'enfance, c'est ça?
C'est-à-dire que ça va rebondir sur... Okay. Sur tes expériences, sur d'autres expériences, et tu vas, ce qui t'arrive aujourd'hui, tu vas y réagir de la même manière que tu as réagi, par exemple, à 5 ans, à un événement qui fait appel au même genre d'émotion. Et en fait, pour répondre à la question, c'est que tu revisites pas toujours, tu tournes pas en rond parce que tu ouvres une porte, puis en fait, tu en ouvres une autre, et en fait, tu vas toujours plus loin, tu vois. Et c'est le processus que tu peux toucher de plein de manières différentes, hein, par la méditation justement, et c'est infini, et c'est la découverte de soi-même, et c'est génial.
Et t'as la sensation que tout ça va faire de toi un bien meilleur papa pour Marthe?
Je sais pas s'il y a meilleur ou pas meilleur papa, parce que tu vois, tu le sais.
Question piège.
Non, mais parce que c'est toujours difficile, de toute façon, on fait ce qu'on peut. Mais.
En tout cas, j'ai l'impression que ça t'ancre dans le présent, en fait, tu vois.
Oui. Ah bah oui.
Et de ce que je retiens de toute ton expérience, là, c'est que j'ai l'impression que ça a beau avoir été super dur pour toi émotionnellement, t'étais dans le moment à ce moment-là, quoi, tu vois. T'étais pas dans ton petit vélo, dans ta tête.
Clairement.
Quoi,
bah oui, t'es dans un autre cerveau, quoi. C'est plutôt dans les tripes, quoi.
Très marrant d'ailleurs de voir, excuse-moi, mais c'est très marrant de voir la différence entre les projections que t'as pu faire avant votre mariage, etc., etc., tu vois, et de se retrouver après dans le dur et d'être, de réussir à rester dans le moment, quoi, tu vois.
Et clairement. Et ça me fait penser à un truc, rester dans le moment et pas se faire piéger par les illusions de ses projections. Et ça me fait penser aux pâtes au beurre. Je te dis, parce que en fait, les pâtes au beurre, c'est une association qui a été créée par une personne dont j'ai oublié le prénom, mais qui est une psychologue de l'enfance.
Okay.
Et ça se situe à Nantes. Et c'est une personne que j'ai rencontrée dans la Drôme qui m'a parlé de ça. Il m'a dit, ah, mais t'es à Nantes, mais il y a les pâtes au beurre, c'est génial, tu devrais y aller. Et les Nantais, les jeunes parents, regardez ce que c'est génial. J'y suis allé une fois. Et alors attends, parce que je digresse, mais je vais revenir au truc. Et les pâtes au beurre, c'est un endroit où t'arrives et tu pousses la porte et en fait ça sent le croissant, le pain grillé, tu peux prendre un petit déjeuner avec des psychologues qui sont là comme toi et moi, et tu peux venir avec ton enfant ou pas. Et ton enfant, il y a une salle dédiée aux enfants, donc les enfants ils vont jouer entre eux et ils jouent entre eux. Et toi t'es entre adultes, il y a d'autres adultes qui viennent progressivement dans le cours de la matinée et chacun aborde ses problèmes ou ses questions et puis tu pars quand tu veux. C'est tellement magique ce lieu. Pour, j'y suis allé une seule fois, mais je vais y retourner.
Okay.
Parce que c'est bienveillant, c'est simple, il n'y a pas de... Voilà quoi, tu abordes tes choses. Et donc j'ai entendu parler de cet établissement et le premier contact avec cet asso, c'était une rencontre un soir. Donc là, pour le coup, j'ai pris une babysitter qui a gardé Marthe et je suis allé faire une sortie sur un thème pour les enfants. Donc tu vois, le gars qui sort pas du truc. Et donc c'était nos enfants vont-ils faire un monde meilleur comment faire de nos enfants des êtres meilleurs pour demain ou je ne sais pas trop quoi. Okay. Je sais plus le thème, mais c'était assez intéressant. Et en fait, c'est une dame, alors c'est pareil, ah si, c'est Maya Gratier, je crois, elle est à Paris, elle recherche sur les enfants et tout, et c'était tellement passionnant. Et à la fin, j'ai posé une question, parce que ça me travaillait, je me suis dit, mais en fait, parce que tu parles des projections, et je reviens sur cette question-là, c'est marrant comme quoi tes projections, tu me disais, sont différentes du fait que maintenant t'es dans le présent, un truc comme ça. Et donc, je disais, mais c'est marrant parce que en faisant un enfant, moi je rêvais de, enfin, j'avais cette projection-là d'avoir une belle famille, de fonder quelque chose à trois et puis à quatre peut-être et puis d'avoir un foyer. Et ma question était de me dire mais c'est marrant parce que après votre conférence, c'est comme si du coup le foyer papa maman bébé était presque limitant pour l'enfant finalement, parce que du coup, je sais plus de quoi traiter exactement la conférence et pourquoi cette question est venue, mais j'ai eu cette réflexion et qui a été approuvée par la personne qui parlait. Elle m'a dit, mais en fait, oui. Et en fait, c'est la remise en question du modèle familial occidental. Parce qu'en fait, ton enfant, il y a une citation africaine qui dit, il faut tout un village pour élever un enfant. Et je m'aperçois que cette situation, au début, je me disais, mais Marthe va être traumatisée. Alors certes, hein, ça a sûrement créé des choses à régler plus tard pour Marthe, de fait de ce contact, de cette naissance-là, de tout ce qui s'est passé. Mais on a essayé de le vivre et moi j'ai essayé d'être le plus juste possible, de vivre les trucs le mieux possible. Et finalement, c'est son histoire. Finalement, elle va l'intégrer. Et finalement, par ce biais-là, elle a rencontré plein de gens. Et elle n'était pas que avec son papa ou que avec sa maman. Elle connaît très bien... ses grands-parents paternels, elle connaît très bien ses grands-parents maternels, elle a rencontré plein d'amis. Quand elle avait 8 mois, je suis parti en van avec elle pendant 25 jours. On a rencontré plein de gens. On va peut-être voyager dans le monde si j'arrive à faire une résidence à l'étranger, on va rencontrer d'autres cultures. Et en fait, c'est... Bon, peut-être qu'elle aurait vécu ça aussi, les autres cultures en couple, mais ce que je veux dire, c'est que c'est 2 ans et 3 mois de vie, alors elle aura rencontré plus de gens et elle aurait été influencée par plein de manières de vivre différentes qu'elle n'aurait pas eu si on avait été dans notre petit foyer, notre petit cocon finalement, tu vois.
Et je comprends tellement. T'en as fait un truc positif pour ta fille en fait, tu vois. À un moment donné, la vie, elle vient faire le taf, quoi.
Ouais, c'est fou. Hein. Et donc on revient aux projections, quoi. C'est dingue comme quoi ces projections sont limitantes, en fait.
Merci beaucoup pour ça. Tu sais, j'ai une dernière question que je pose à tous mes invités. Si Marthe écoute ce podcast dans 10 ans, elle aura 12 ans et demi, elle sera en plein dans l'adolescence, mon vieux, t'es pas prêt.
Aïe aïe aïe.
Qu'est-ce que t'as envie de lui dire?
Waouh. Bah écoute, qu'est-ce que j'ai envie de te dire, Marthe? 12 ans. Bah, on fait tous des erreurs, donc je fais comme je peux, déjà. Ça, c'est le truc. Chaque parent fait comme il peut. Et que j'ai réalisé plein de trucs par rapport à mes parents le jour où j'ai eu un enfant, déjà. Et puis, écoute, et que je suis en permanence, des fois, en questionnement permanent, et que j'essaye de faire au mieux, et que j'espère que bah, ça va bien à 12 ans, et que tout se passe bien, en tout cas. Mais que, ouais, après, je sais pas si je te le dis à Marthe, mais je le dis aussi à tout le monde, c'est être parent, c'est vraiment osciller entre le lâcher prise et la culpabilité des fois, et tu sais, des émotions positives et moins positives, où des fois tu te dis il faut aussi que je prenne soin de moi en fait, et donc bah du coup je vais la confier à ses grands-parents pendant peut-être 5-6 jours, mais du coup on se dit ah ouais, mais peut-être qu'il faudrait que je la récupère. Puis quand je la laisse à la crèche, des fois je me dis ah bah oui, mais faut pas que je la laisse trop longtemps et tout ça. Puis après on se dit mais non, mais si, parce que moi il faut que je fasse ça. Et puis je suis ton papa, mais je suis aussi un homme. Et puis plus je suis un homme, plus tu seras fier de ton papa, et plus tu vas pouvoir t'émanciper aussi à son exemple, etc., etc. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est ça quoi. C'est que actuellement, je suis en permanence aussi entre ces états d'esprit et essayer de faire au mieux quoi. Donc voilà. Donc je fais au mieux et merci pour cette aventure, Marthe.
En tout cas, merci à toi, Maury. C'était fou, ton récit, vraiment. Non, non, vraiment.
Ah, merci.
Merci d'avoir partagé. Merci pour les futurs parents potentiels qui vont se retrouver dans ta situation aussi. Merci d'avoir été aussi précis, tu vois, sur les étapes, etc. J'ai bien compris qu'il y a plusieurs fois, tu disais peut-être c'est flou, mais en fait on s'en fout. C'est pas l'important, c'est pas la chronologie, si tu veux, mais c'est plutôt la façon dont t'as vécu le truc. Et c'était très fort. Donc, merci à toi.
Bah écoute, je te renvoie le remerciement de pouvoir parler dans ce cadre bienveillant. Et puis, si j'ai été précis, c'est aussi que tu m'as bien amené à pouvoir relater les différentes étapes. Et ça fait du bien. Merci à toi, Florent.
C'est Fabrice.
Fabrice. ça va être coupé, par contre.
Non, pas du tout, mais c'est pas grave.
Et, ouais, Fabrice Florent.
Oui, c'est mon pote. C'est pas grave. Bonne journée à toi.
Bonne journée.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joe l'Esquimau qui, le 11 août 2020, a mis 5 étoiles en 10 ans. Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. Merci d'avoir lancé cette super initiative et merci à tous les darons qui partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi, et vous aussi vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.